France Inter.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Le temps d'un bivouac.
Il a accompli en action ce que nous, Français, accomplissons en mots. Nous voyageons avec les livres de Jules Verne, nous apprenons l'histoire par les romans de Dumas, et quand un jour on se trouve devant Nansen, c'est comme si nous croisions le capitaine Nemo ou D'Artagnan dans la rue. Voici ce qu'écrit un journaliste français en 1897 au sujet de l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen. En cette fin de 19e siècle, Nansen est devenu un véritable héros dans son pays. Ses expéditions polaires l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Il a effectué la première traversée du Groenland à ski, puis a tenté d'être le premier homme à atteindre le pôle Nord. Mais sa vie ne se résume pas à une succession d'exploits dans les glaces de l'Arctique. En 1922, le Norvégien reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé des milliers de vies en créant un statut pour les réfugiés. Dans un livre passionnant intitulé « Le passeport de Monsieur Nansen » paru aux éditions Paulsen, l'écrivain Alexis Génie raconte la vie incroyablement romanesque de cet homme tourmenté, à la fois mélancolique et déterminé, qui a commencé par traverser les glaces et a fini par déplacer des montagnes, avec toujours ce sentiment que ça n'était pas encore assez et qu'il aurait pu aller plus loin. Cet après-midi, Alexis Génie nous emmène dans les glaces du Grand Nord sur les traces de l'étonnant Monsieur Nansen. Cette émission a été préparée par Emmanuel Fournier, elle est réalisée par David Leprince, avec à la technique aujourd'hui Guillaume Ficheux. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Et ici, quand il y a des nuages tout autour, on vit dans une sorte de boule de coton parce qu'il n'y a plus de relief, il n'y a plus de repères. Déjà, c'est difficile sur la banquise quand il y a du soleil parce qu'il n'y a pas de repères. On ne sait pas si un bloc est à 100 mètres, 200 mètres. C'est difficile d'estimer. Alors encore plus quand il n'y a pas de contraste lié à la lumière. Alors, c'est oppressant un peu. C'est oppressant. Les Anglais appellent ça le whiteout. Tout est blanc. Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas de... Il ne se passe rien, et j'ai trouvé que cette permanence de la nébulosité, du brouillard, était quelque chose qui pouvait atteindre facilement le moral. Il faut s'imposer tous les jours de se dire « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». C'est quelque chose qui affecte beaucoup la physiologie humaine.
Bonjour Alexis Génie.
Bonjour.
Nous voilà donc plongés immédiatement dans l'immensité de la banquise arctique avec cette description in situ de l'explorateur polaire Jean-Louis Étienne, qui est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Ces conditions infernales qu'il décrit, d'autres les avaient affrontées avant lui, près d'un siècle plus tôt. Fridtjof Nansen s'est retrouvé dans ce même univers blanc qu'il décrivait très bien, avec un équipement bien plus rudimentaire, Alexis Génie.
Ouais, tout à fait. C'était vraiment des chaussettes en laine, des chaussures en cuir, voilà, et avec une veste en fourrure, vraiment très très à l'ancienne.
Oui.
Et puis c'était vraiment du bricolage. C'est incroyable. Il y a eu beaucoup d'expéditions polaires à la fin du 19e. Beaucoup se sont terminées en drame, en tragédie. D'ailleurs, il y avait une sorte d'appétence du public pour ça. Ouais. C'était très 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 beau cette tragédie. Et puis, on tâchait de bricoler, on tâchait d'aller un peu plus loin que la précédente, et on tâchait d'arriver dans ce point géométrique absurde qu'est le pôle Nord,
ouais.
Quand on y est, on n'y voit rien.
Ouais.
Mais ça a pris beaucoup de temps.
Et Fridtjof Nansen voulait être le premier à atteindre le pôle Nord. Alors nous verrons comment s'est passée son expédition. Aujourd'hui, son nom n'est plus très connu, mais à la fin du 19e siècle, il faut se remettre dans cette époque, ses explorations polaires lui valent une renommée absolument internationale. C'est une star mondiale.
Absolument. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a fait que deux expéditions dans sa vie.
Ouais.
Le Groenland et la tentative d'atteindre le pôle. Mais il a écrit sur chacune, il l'a raconté. Ouais. il a su cultiver son image. Il a fait des dizaines de conférences, de rencontres, etc. Et il était un excellent vendeur de lui-même.
Ouais.
En plus, il avait le physique pour ça, un physique très impressionnant de grand viking.
Les yeux très bleus.
Très bleus, très grand, très costaud. Et puis un regard intense. Mm. Et il savait se montrer, il savait parler. Et donc, il a fabriqué son image. Et cette image a eu un succès fou. Ouais. Il est devenu une star mondiale.
Si bien que Jules Verne, parce que c'est un contemporain de Jules Verne, fasciné, lui écrit en personne, complètement sous le charme, lui aussi.
Ah oui, parce que bon, Jules Verne, en fait, il a écrit des tas de choses, mais il est comme moi, Jules Verne. Il écrit des trucs, mais il y va pas.
Et oui.
Là, moi non plus, j'y vais pas. Ouais. Et il est fasciné par les gens qui y vont pour de vrai. Mmh. Et donc Jules Verne le félicite, et puis il rêve d'être un aussi beau viking que Nansen. Ouais. Et c'est vrai qu'il a fasciné tous ces gens qui n'y allaient pas.
Ouais. Y compris Freud, qui lui explorait l'inconscient.
Ah non, mais pire que ça, Freud a rêvé de Nansen. Oui. C'est génial, il y a une lettre de Freud où il raconte à son ami Fliss qu'il a rêvé de Nansen. Et même, il a rêvé qu'il sauvait Nansen.
Oui, c'est ça. Et vous dites, vous écrivez, Alexis Génie, Nansen était partout en cette fin de siècle, même dans l'inconscient de l'inventeur de l'inconscient.
Ah oui, non, mais c'était vraiment une figure très très connue. Alors, et en Norvège, c'était la folie, c'était le héros national norvégien. Mmh. C'était quasiment l'incarnation de la nation norvégienne. Mmh. Et comme je l'ai déjà dit, il avait le physique pour ça. Et avec son physique de viking, ça le faisait bien.
Mais vous, ce qui vous intéressait, c'était d'aller un peu au-delà de cette image que lui-même a vendue en son temps et qui finalement a perduré à travers les âges, parce que vous en faites un personnage, justement, du point de vue de la psychanalyse, peut-être plus intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que Freud s'y intéressait. Un personnage plus tourmenté, moins lisse qu'il n'y paraît.
Tout à fait. C'est-à-dire que Freud avait noté ça, noté le fait qu'il était ambivalent avec ses exploits, c'est-à-dire à la fois, il voulait dépasser les limites, mais il avait l'impression qu'il n'y arrivait pas. Il était tenaillé par une mélancolie permanente. Mmh. Et s'il est un personnage ambivalent, et pour ça il est romanesque, pour ça il est intéressant. Ouais. Parce que finalement, la légende dorée de Fridtjof Nansen, telle qu'elle est encore propagée par le HCR, par exemple,
le haut commissariat aux réfugiés.
Dont il était un peu un des fondateurs, c'est Superman. Ouais. Et on sait bien que Superman n'a pas d'histoire, parce qu'il peut tout. Mmh. Mais après, quand on creuse un peu, eh bien, il est très intéressant parce qu'il n'est jamais sûr de lui.
Oui. Alors, il n'est jamais sûr de lui. Ça n'est pas Superman, mais il a quand même, il semble avoir de très nombreux talents. Hein. En dessin. Alors, mais quand je dis en sport, c'est-à-dire champion de patinage, champion de ski.
Champion du monde de patinage. Champion de Norvège de ski, mais à l'époque, il n'y avait qu'en Norvège qu'on faisait du ski, donc du coup, il est champion du monde. Ouais. Et il dessinait extrêmement bien. Ouais. Il y a des dessins de lui, des pastels d'aurore boréale, chose difficile à dessiner quand même, qui sont magnifiques. Il écrivait très bien et il a été docteur en sciences, en biologie. Ouais. Ouais. Il était à ça, là je fais le geste de rapprocher deux doigts, à ça d'avoir le prix Nobel. Parce que finalement, ceux qui ont pris le prix Nobel pour ce sujet-là, eh bien, ils travaillaient sur le même sujet. Alors le problème, c'est que lui, une fois qu'il a eu fait sa thèse, quelques jours après, il part au Groenland. Donc, il a un petit peu gâché sa carrière scientifique.
Alors voilà, on arrive au Groenland, il part. Mais la première fois, c'est sur un bateau pour aller étudier la faune.
Alors, la première fois, il avait 20 ans. C'est un travail de vacances. Mmh. Il embarque sur un phoquier, un navire qui va chasser le phoque, pour étudier la faune. C'est vraiment pour un mois, pour comme étudiant. Et là, il est bloqué pendant 3 semaines dans les glaces.
Et c'est là que le virus le prend.
Voilà, face aux montagnes du Groenland. Ouais. Alors, je vous rappelle que le Groenland, à l'époque, personne ne l'avait jamais traversé. On voyait du côté est du Groenland, il y a des montagnes, on voyait ces montagnes, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Mmh. Et donc, lui, il regarde, pendant 3 semaines, il rêve sur ces montagnes. Il trouve ça beau, il les dessine, il trouve ça splendide, il imagine que peut-être on pourrait y aller de façon simple. À pied, par exemple, parce que la banquise le menait jusqu'à la côte. Donc, il rêve de ça, et ça va être son projet. Traverser le Groenland, et comme les grosses expéditions, elles échouent toujours lamentablement parce qu'elles sont trop lourdes, il suffit de recruter quelques skieurs.
Ouais. Alors ça, c'est son idée. Mais il faut quand même, parce que vous dites, à cette époque, personne n'y est allé. C'est-à-dire, même les Inuits, en personne n'est allé au centre du Groenland. Bah,
Les Inuits vivent sur la côte.
Ouais.
Il faut pas oublier que le Groenland, c'est une calotte polaire, c'est une couche de glace de 3000 mètres d'épaisseur.
Ouais. 3 kilomètres d'épaisseur de glace.
Donc quand on en est dessus, on est à 3000 mètres, il fait super froid. Ouais. Il n'y a rien. Ouais. Il n'y a que de la glace. Donc les Inuits, ils vivent sur la côte, parce qu'ils vivent des ressources de l'océan. Donc personne n'y va.
Sauf qu'à l'époque, personne n'y va, mais tout le monde fantasme et imagine des choses un peu incroyables. Parce que des fois, on voit des troupeaux de bêtes locales s'enfoncer dans les terres. Donc on se dit peut-être qu'il y a un petit Éden derrière ces montagnes de glace.
Il y a un endroit où ils passent l'hiver, ils broutent, c'est verdoyant, c'est merveilleux. Il y a des courants chauds qui font une sorte d'Atlantide là au milieu. C'est aussi un fantasme littéraire. Mmh. C'est le monde perdu de Conan Doyle, c'est où ça. Il imagine des dinosaures dans la jungle amazonienne. Ben là, c'est pareil, on imagine un monde perdu au milieu des glaces. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement c'est une rêverie littéraire, mais c'est aussi une rêverie scientifique. Ouais. C'est-à-dire que des expéditions de type scientifique imaginent qu'on va pouvoir trouver ça. Mais en fait, on n'en sait rien. On sait rien.
Alors lui, Fridtjof Nansen, lui imagine qu'on peut traverser à pied et puis en avoir le cœur net, savoir ce qui s'y trouve. En 1887, il est tout jeune, il envoie une lettre au conseil académique de l'université de Christiania, qui est l'actuelle Oslo, pour faire part de son projet.
Je me propose d'organiser l'été prochain une expédition de patineurs pour traverser l'Inland 6 du Groenland. Jusqu'ici, les Norvégiens n'ont guère contribué à l'exploration des terres polaires, tandis que le Danemark et la Suède ont organisé de coûteuses expéditions vers ces régions lointaines. Notre pays est resté indifférent à ce mouvement. Les Norvégiens sont pourtant le peuple le mieux doué pour de semblables entreprises. Plus facilement que tous les autres, nous pouvons supporter le froid de ces régions. Et surtout, l'habileté de nos patineurs nous assure la supériorité. Une caravane d'hommes chaussés de skis, suivie de traîneaux tirés par des chiens, aurait de grandes chances de réussir la traversée du Groenland.
Nansen demande 5000 couronnes, l'équivalent de 15 000, 20 000 euros, pour mener à bien son projet. Comment sa demande va être prise, Alexis Génie ?
Eh bien, on le prend pas au sérieux.
Ah oui.
Parce que bon, on trouve que il y connaît rien, que l'État norvégien est trop pauvre pour payer des vacances à un de ses ressortissants. Enfin, oui. C'est ce qu'on lui répond. Alors, il faut dire aussi que on voit bien dans cette lettre, il parle de la Norvège par rapport aux autres. À l'époque, la Norvège n'est pas indépendante. Ouais. La Norvège est une province de la Suède, et il y a une envie d'être norvégien, une envie de créer une nation norvégienne. Et il va appuyer là-dessus, il va essayer de dire que ça serait une belle expédition norvégienne. Mais bon, nous on le prend pas au sérieux. Ben, d'un autre côté, un gamin de 20 et quelques années, dire qu'il va partir en ski là où des grandes expéditions ont échoué, on va pas lui donner les sous.
Alors on va pas lui donner des sous. Il va quand même trouver un mécène danois qui va lui donner les sous. Si bien que 6 mois seulement après avoir imaginé ce projet, il va pouvoir se lancer dans l'aventure. Mais là encore, il faut bien se figurer les choses. Tout est à imaginer, c'est-à-dire les équipements. Comment on dort? Dans quoi on dort? Comment on se déplace? Est-ce qu'on emmène des chiens?
Tout à fait. Alors, il avait des idées comme ça, de pouvoir emmener des chiens, puis de manger les chiens au fur et à mesure. Puis finalement, il ne va pas le faire. Ouais. Il avait pensé aussi emmener des rennes. Et puis finalement, les rennes, il faut emmener du lichen, ça va pas du tout. Donc finalement, ils vont tirer leur traîneau eux-mêmes. Et puis après, il y a toute une série de problèmes pratiques. L'eau, par exemple. L'eau, il faut faire fondre la glace. On ne prend pas un morceau de glace qui est à moins 40 et on pour le mettre dans la bouche.
Ah oui.
On y perd sa bouche. Donc du coup, il faut faire fondre tout ça. Donc
alors,
un petit réchaud. Donc il faut de l'alcool pour le réchaud. D'ailleurs, l'alcool, attention, c'est de l'alcool dénaturé parce qu'il sait le problème que pose l'alcool dans les expéditions polaires.
Interdiction de boire, dans l'expédition de Nansen.
Et interdiction aussi de boire du café parce que ça empêche de dormir. Parce que pour dormir, il dort dans les sacs de couchage. Ouais. Alors, ça, c'est extraordinaire. Ils sont 6, ils vont faire 2 sacs de couchage.
Ouais.
Et c'est des gros sacs de peau de renne. et se mettent dedans et ils ferment ça et ils sont là-dedans, ouais. Ils posaient sur dans une tente sur la glace.
Donc à trois dans le même sac de couchage.
Je sais pas comment on fait. J'ose même pas imaginer comment on peut se retourner dans ces conditions-là.
Et même au départ, ils voulaient un sac de couchage.
Un sac à six.
À six.
Mais ils se disent, si jamais on le perd, on est foutu. Donc on va en faire deux. Voilà. Ça va aller.
Comme ça, si on en perd un, on dormira alternativement. Voilà, on dormira.
C'est des choses incroyables. J'ai vu ça dans son livre. Il le raconte. Il raconte tout le côté technique, parce que c'est quelqu'un de très organisé, très méthodique, très rationnel. Donc, il fait vraiment la liste de tout ce qu'il emmène, et même la nourriture, faut toute l'amener, parce qu'il y a rien, hein. Donc, il va faire fabriquer du pemmican, parce qu'il faut consommer beaucoup de la, c'est une sorte de confit, de vin de séché.
Ouais.
Il faut des choses extrêmement caloriques, parce que, on consomme énormément d'énergie à pas mourir de froid.
Alors, vous allez nous raconter comment s'est passée cette traversée du Groenland. Alexis Génie, nous partons avec vous sur les traces de l'explorateur polaire Fridtjof Nansen cet après-midi dans le temps d'un bivouac. Chanson groenlandaise, c'était Niv Nilsson et The Dear Children Room sur France Inter.
Nous quittons nos familles. Nous abandonnons la vie civilisée. Que trouverons-nous? Nul ne le sait. Mais à coup sûr, cela doit être très beau.
À lire les récits de Fridtjof Nansen, cet explorateur polaire sur les traces duquel nous partons avec vous cet après-midi, Alexis Génie. À le lire donc, il part en quête du beau. Quand il entreprend sa traversée du Groenland, c'est vraiment ce qu'il va chercher dans ces contrées où aucun humain n'a mis le pied avant lui.
Oui, alors, dans ses demandes de fonds, etc., il met toujours en avant les recherches scientifiques. Mais dans son journal, il parle toujours du beau. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui est à la fois très rationnel et qui a un sens esthétique fort. Ouais. Il aime la beauté, mais la beauté grandiose.
Ouais. Il est souvent lyrique, emphatique, dans ses écrits.
Ça ronfle un peu, mais bon, c'est d'époque.
Ouais. Alors, vous parlez d'un contemplatif plein d'énergie pour décrire le tempérament de.
Voilà, c'est côté mélancolique aussi. Il y a cette mélancolie, il regarde beaucoup. Et puis, mais après, quand il a un but, il l'atteint. Mmh. Et là, il est capable aussi d'entraîner les hommes. Ouais. C'est vraiment, il a cette qualité-là.
Ouais. Alors, il doit d'abord traverser la mer avec les blocs de glace pour atteindre la côte groenlandaise. Voilà. Là, il rencontre les Inuits. Et ça se passe très bien avec les Inuits.
Et il décrit cette rencontre. Ouais. Et c'est très, très chouette. Parce que dans un monde où l'Europe et colonial, où l'indigène n'est qu'un sous-homme, il les considère avec beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de curiosité. Il les trouve extrêmement intelligents, extrêmement sympathiques, très drôles. Et il y a comme ça des pages très humaines. Mmh. Alors, ce qui est un peu surprenant, parce que après, dans sa vie, il est un peu raide, un peu sévère, un peu, donc on pourrait imaginer qu'il soit un comme ça, idéologiquement. Mais en fait, il y a toujours eu une tendresse humaine chez lui, et il considère tous les êtres humains comme des êtres humains, ce qui n'est pas le cas en 1890.
Oui, voilà. C'est ça. À cette époque-là, tout le monde n'est pas aussi ouvert. Puis, après ces rencontres et ce temps passé avec les Inuits sur la côte groenlandaise, vient à proprement parler l'exploration, l'aventure, l'inconnu.
La traversée.
Eh oui.
En fait, bon, c'est très simple. Il faut grimper sur la calotte, arriver au sommet de la calotte, redescendre. Bon, ça fait 600 kilomètres. Et là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des glaces. Ouais. C'est de la glace, il y a un peu de vent, il y a des vents qu'on appelle catabatiques, c'est-à-dire c'est ces vents qui sont dus au froid, qui dévalent la pente. Ils font comme ils peuvent, il y a des crevasses.
C'est pas régulier,
non.
C'est pas la grande étendue de neige plate.
Parce que, en fait, la glace coule. Ouais. Parce que la glace, elle descend. Elle descend sur les bords, c'est ce qui fait les icebergs. Et donc, elle se fend, elle craque, ça fait des crevasses qui vont traverser sur des ponts de neige. Enfin bon, c'est un peu infernal.
Ouais, il va beaucoup plus lentement que ce qu'il avait prévu.
Ah, il va beaucoup plus lentement. Un problème, c'est qu'ils ont chaud parce qu'ils font des efforts. Ils sont même en bras de chemise. Le problème, c'est en bras de chemise, par la température qu'il fait, s'ils s'arrêtent un instant, ils peuvent geler. Donc, faut faire super attention. Enfin, chaque geste est risqué. Mmh. Ils risquent leur vie à chaque geste. Ouais. Celui qui se lève le matin, il faut qu'il ouvre la tente pour aller chercher pour faire le petit déjeuner. Le problème, c'est que s'il y a un peu de tempête, le traîneau qui est à 5 mètres, il ne le voit pas. Et quand il est au traîneau, il ne voit pas la tente. Ouais. Donc c'est très, très compliqué. C'est des coups à se perdre, des coups à mourir gelé, c'est très facile. Et puis, heureusement, tout se passe très très bien. Alors il y a une discipline de fer, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qui doit être fait, et ça se passe très très bien. Il prend jamais de risques, et il y a cette idée aussi de rester toujours liés, toujours ensemble. Donc son projet de faire traverser Groenland par une petite équipe de vigoureux patineurs, eh bien, est un succès. Ils ont réussi.
En cinq semaines.
5 semaines par moins 40 sur de la glace. Ouais. Et où il n'y a rien à voir, rien d'autre à faire qu'à avancer péniblement. Bon, ils arrivent au sommet, puis après ça, ils redescendent. Et quand ils redescendent, avec des bâches, ils se font des voiles sur leur traîneau et ils descendent à toute vitesse. Mmh. Et un jour, ils voient la mer de l'autre côté. Et là, c'est vraiment le bonheur. Ils l'ont fait. Bon, après, il faut quand même récupérer la colonie danoise ils savent pas exactement où ils sont.
Oui, c'est ça. C'est quand même un peu approximatif, évidemment, pour se diriger. Et quand ils voient la mer de l'autre côté, mais c'est aussi, ils voient les rochers, ils voient un petit peu d'herbe, ils retrouvent l'odorat. Ah, c'est le retour à la ville.
C'est extraordinaire. Il décrit ça quand il arrive au bord et là, il y a de l'herbe. Ouais. Et là, ils sentent. Parce que pendant les 5 semaines, ils étaient sur la glace, il n'y avait absolument aucune odeur de rien du tout, à part peut-être leur chocolat qu'ils faisaient chauffer, leur chocolat à la viande, attention, très nourrissant, qu'ils faisaient chauffer dans leur réchaud, mais à part ça ne sent rien. Et là, ils ont eu l'impression de retrouver la vie, en fait, et d'avoir traversé une zone étrange, belle mais abstraite, où il n'y avait rien. Ouais. Et comme s'ils traversaient la lune, finalement. Et là, ils retrouvent la Terre.
Ouais. Fridtjof Nansen et son équipe deviennent les premiers hommes à avoir traversé le Groenland. Et donc, quand ils rentrent en Norvège, ce sont des héros.
Ce sont des héros norvégiens. Ouais. Ça, c'est important, ça. Parce que, voilà, la nation norvégienne veut se constituer, veut avoir des figures d'identification. Donc, lui, ben, il est parfait pour ça. Il écrit son texte. C'est paru, ça paraît dans la presse. C'est traduit dans différentes langues. Il fait des conférences un peu partout. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai que là, il devient un personnage public.
Ouais. Cette fois, on le prend au sérieux.
Ah, très au sérieux.
Et il, entreprend ou il imagine un nouveau projet, c'est d'aller au pôle
Nord. Plus fort, plus loin. Là, ça serait d'aller au pôle.
Ouais.
Et là, il a une idée géniale, faut le dire.
Ouais. Alors, comment lui vient cette idée géniale?
Alors, tout simplement, dans la presse, on annonce la découverte de morceaux de bateau, un bateau qui s'appelle la Jeannette, dont le naufrage avait beaucoup agité les médias à l'époque, mais qui avait fait naufrage à l'est de la Sibérie. Et on retrouve des morceaux au Groenland. Et là, un météorologue de l'époque fait une hypothèse comme quoi il y aurait un courant qui transporte les bois flottés, par exemple, de la Sibérie jusqu'au Groenland. Et là, Nansen a une idée géniale. Il suffit de se faire prendre dans les glaces en Sibérie. Et puis d'utiliser la dérive des glaces. Plutôt que de faire encore une fois des grosses expéditions vouées à l'échec, on va glisser sur les phénomènes naturels, on va se faire prendre par la glace et se laisser porter jusqu'au pôle. Et pour ça, il va faire construire un bateau capable d'accueillir une douzaine de personnes pendant le temps que durera cette dérive, qu'il estime à 2 ans, mais ça, il dit ça à sa femme.
Ouais.
À son frère, il dit oh, on en a au moins pour 3-5 ans, mais dis-le pas à ma femme.
Ouais. Bon, voilà, c'est ça. Il sait que ça va durer très longtemps. Il est même question à un moment que sa femme, qui s'appelle Eva, fasse partie du voyage, embarque avec eux.
Elle aurait beaucoup voulu, parce que, en fait, c'est cette femme, ils se sont connus, étrangement, en faisant du ski. Elle était la femme qui fait du ski, ce qui était rare à l'époque. Et il y a quelque chose qui s'est fait entre eux. Autour de ce partage de la nature, du sport, etc. Donc il a dit mais oui, je veux que tu m'emmènes.
Bon. Il avait accepté, il était partant.
Donc il n'avait pas refusé.
Ouais.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Et puis elle est enceinte.
Et
enceinte, donc elle peut pas. Voilà. Donc je pense que ça l'a bien soulagée parce que ça aurait été compliqué à gérer, parce que voilà. Donc du coup, elle reste à la maison avec le petit bébé.
Le petit bébé qui s'appelle Liv. Hein, c'est une petite fille parce qu'elle accouche avant le jour du grand départ. Il en faudrait davantage à Nansen pour annuler ou reporter.
Il a eu un grand moment de mélancolie là, parce que s'il savait pas s'il fallait qu'il fasse ça, parce que bon, il était en fait très attaché à sa femme, très attaché à ce bébé, mais il l'a quitté toujours.
C'est ça, toujours pour partir, mais avec une certaine mélancolie. Le 24 juin 1893, le jour du grand départ arrive, le bateau est prêt, hein, le Fram, qui veut dire on y va.
En avant,
en norvégien, le Fram est prêt. Et on ne peut pas dire que le récit de ce départ fait par Nansen transpire la joie de vivre.
C'est le moment du départ. Derrière moi, je laisse tout ce que j'ai de plus cher au monde. Maintenant, quand les reverrai-je, ces êtres adorés? Ma petite Liv est là, assise à la fenêtre. Elle bat des mains. Pauvre enfant, elle ignore encore, heureusement, les vicissitudes de la vie. Le navire lève l'ancre, salué par la population de Christiania, massée sur les quais, et lentement descend le fjord. Ce jour du départ a été le plus triste du voyage.
Il a soulevé des montagnes pour organiser cette expédition. C'est plus d'un million d'euros actuels, hein, la construction du bateau, avoir retrouvé l'équipe. Il y a eu plus d'un millier de personnes qui ont postulé. Il a choisi les plus brillants coéquipiers. Et le jour du départ, il est malheureux comme une pierre. Il y a toujours cette mélancolie pas loin avec Nansen.
C'est un côté norvégien, il a un côté Ibsen, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de mélancolie scandinave qu'on retrouve dans les romans policiers scandinaves. Ils sont tous un peu dépressifs là.
Ouais.
Bon, et voilà. Donc, à la fois, c'est quelqu'un de brillantissime, à tout point de vue, qui est très vigoureux, très, et puis il y a cette ombre de mélancolie permanente. Bon, mais il joue avec ça. Alors dans les livres qu'il a écrits, j'allais dire dans les romans, non, dans les livres qu'il a écrits, eh bien ça transparaît assez peu parce que c'est un peu lissé. Mm-hmm. Mais quand on pioche un peu dans ce qui est les journaux, le journal qu'il écrivait, les journaux
le journal
des autres membres d'expédition,
finalement,
voilà,
ouais.
Tout à fait. Bien, ça apparaît en permanence.
Ouais.
C'est très noir.
Mais au final, pourquoi il part? Quelles sont les vraies motivations? Parce que lui, il dit, mon but, ce n'est pas d'atteindre l'axe septentrional de notre sphéroïde, mais d'explorer, au point de vue scientifique, les immenses espaces encore inconnus qui l'entourent. À mon avis, la recherche du point mathématique qui forme le pôle n'offre qu'un intérêt minime.
Ouais, c'est de la rationalisation.
Ouais, c'est-à-dire que là, il n'est pas franc du tout.
Non, c'est un peu bidon, c'est parce que là, il parle aux investisseurs, il parle pour la postérité. En fait, il veut y aller parce qu'il veut être le premier. Il veut être champion du monde.
Ouais.
Il a déjà été champion du monde de plein de trucs.
Ouais.
Donc il veut être champion du monde dans tout ce qu'il fait.
Ouais.
Et là, il veut vraiment être le premier à arriver là. Après, bon, il n'y arrivera pas. Mais après le reste de sa vie, ça le tentera. Il sera toujours intéressé par ceux qui essaient d'y aller.
Ouais.
Il fait semblant de dire que ce n'est pas important, mais n'empêche que l'intérêt de ce point mathématique, c'est que il y aura un premier qui y sera. Il voudrait être ce premier.
Il voudrait être ce premier. Hein. C'est vraiment ça son moteur le plus profond. À bord de ce bateau, hein, au début, donc avant d'être pris dans les glaces, il navigue. Et on sent quand même qu'à bord, c'est pas un meneur d'hommes hors pair. Hein. Dès qu'il apparaît au sein de l'équipe, en gros, il plombe l'ambiance. Hein. C'est, personne ne l'apprécie vraiment dans son équipe.
En fait, c'est son côté champion du monde. C'est-à-dire qu'il veut se mêler de tout.
Ouais.
Il a un avis sur tout, il a confiance en personne, etc. Il veut toujours avoir raison. Alors, les autres le trouvent assez insupportable, en fait.
Ouais.
Heureusement, il avait engagé un marin avec qui il avait fait l'expédition du Groenland et qui est le capitaine de l'expédition.
Ouais. C'est-à-dire que lui, Nansen, est le chef d'expédition.
Voilà. Et il y a le capitaine du bateau.
Qui lui est Sverdrup.
Sverdrup, voilà.
C'est son nom.
Et ce qui est drôle, c'est que Sverdrup accueillait les récriminations dans sa cabine. C'est-à-dire que les membres d'équipage pouvaient lui parler à cœur ouvert.
Mmh.
Oui, on parlait pas à Nansen, parce que c'était pas possible, mais à Sverdrup, on pouvait parler. Et donc, il se partageait un peu les tâches, et finalement, bon. Alors, après, Nansen était porteur de l'utopie, était porteur de l'élan. C'est lui qui a emmené tout le monde, qui a emporté tout le monde.
Mmh.
Après, dans la gestion, il était pas drôle.
Ouais, c'est ça. Alors, le but, c'est de se laisser prendre dans les glaces, au niveau de la Sibérie, pour ressortir quelques années plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps après, de l'autre côté, après avoir été transporté par les glaces. Et donc, après 3 mois de navigation, la glace épaissit, les blocs de glace se soudent entre eux autour du Fram, le bateau de Fridtjof Nansen.
Toutes les apparences indiquent que maintenant, nous sommes définitivement pris dans la banquise. Et je ne m'attends plus à voir le Fram hors de la glace que lorsqu'il sera arrivé de l'autre côté du pôle, dans le voisinage de l'Atlantique. De jour en jour, le soleil décline sur l'horizon et la température s'abaisse. La longue nuit si redoutée de l'hiver arctique approche.
Ils ont franchi la frontière. On leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Et forêts de conifères, bordées les premières sphères, d'où arrivaient lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers, des nouveaux pères de leur terre. Il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il mettait derrière la matière, un clignement de paupières, ils ne reviendront jamais, jamais. Il flottait sous l'atmosphère le grand ballon d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière près d'androgynes centenaires. Oh, 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 quatrième millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre, il n'y avait plus de mots pour guerre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais.
C'était Le Pays Imaginaire de Wendy Martinez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Cette lutte des glaces, les unes contre les autres, est à coup sûr un spectacle extraordinaire. On se sent en présence de forces titanesques. Au début d'une grande pression, il semble que tout le globe doive être ébranlé par ces chocs. C'est d'abord comme un roulement de tremblement de terre, très lointain. Puis le bruit se rapproche et éclate en même temps sur différents points. Les échos du grand désert neigeux, jusque-là silencieux, répètent ce mugissement en fracas de tonnerre. Les géants de la nature se préparent au combat. Partout, la glace craque, se brise et s'empile en toros. Et soudain, vous vous trouvez au milieu de cette lutte effroyable.
La puissance de la banquise arctique. Merci à Stéphane Combe qui lit ces extraits du journal de Fridtjof Nansen, explorateur polaire qui a tenté à la fin du 19e siècle d'être le premier à atteindre le pôle Nord. Alexis Génie, notre invité, raconte, mais vraiment comme un roman, l'histoire de cet explorateur polaire dans un livre intitulé Le passeport de Monsieur Nansen, paru aux éditions Paulsen. Alexis Génie, une fois de plus, Nansen, dans ses écrits, ne semble pas effrayé du tout par la puissance des éléments qui sont à l'œuvre autour de lui.
Ah, il aime ça, il a l'impression d'être dans une sorte d'opéra. Il a plein de fantasmes, un peu, de mythologie nordique, assez étonnant. Donc là, il est au milieu, il trouve ça super romantique, violent, puissant, etc. Donc il a pas peur, hein. Bon, de toute façon, je crois qu'il a jamais peur, de toute sa vie. Mais le problème, c'est que, ils avancent pas vers le nord. Enfin, il s'est un peu trompé sur ce courant qui aurait dû les amener au pôle. En fait, ils mesurent chaque jour leur position. Et puis, un coup, ça va un peu vers le nord, et le lendemain, ça va un peu vers le sud, ça revient vers le nord, vers le sud, et ils se rendent compte que ça va pas directement vers le nord. Et qu'ils risquent d'y passer des années et des années, et finalement, passer peut-être par hasard.
C'est-à-dire que cette dérive de la banquise sur laquelle il comptait n'est pas si régulière.
Elle est pas régulière
du
tout.
Elle avance en zigzag.
Voilà. Mais c'est vrai que bon, personne n'avait jamais rien mesuré là-dessus. Il est allé sur une idée. Et bon, alors après, ils sont pas malheureux. Leur bateau est vraiment fait pour résister aux glaces. Ouais. Il est suffisamment arrondi pour glisser comme une savonnette si la glace se referme sur eux. Ils ont de la nourriture pour des années. Ils ont de la lumière. Ils ont du chauffage. Tout se passe bien. Mmh. Ce sont des Norvégiens calmes et, et réservés. Donc ça va, quoi.
Cela dit, calme et réservé, mais quand même un petit peu impatient. Au bout d'un moment, Nansen s'impatiente sur cette banquise qui zigzague.
Alors, il décide de finir à pied. Parce que finalement, faut y aller, quoi. Il reste, je crois, peut-être 600, 800 kilomètres, il n'y a pas de problème. Ils avaient amené des chiens pour et des traîneaux pour au cas où. Et avec un autre, avec Johansen, un des marins, il décide d'y aller. Donc, il charge les traîneaux avec de quoi. Et puis, il part avec les chiens, droit vers le nord. Là aussi, c'était très mal calculé. Parce que la banquise, eh ben, elle n'est pas du tout régulière. Ouais. C'est encore pire que sur la calotte du Groenland. Parce que la banquise de l'océan Arctique, elle est sur un océan, ça bouge tout le temps. Et donc, c'est plein de fissures, de craquements, de compressions, ça fait des reliefs. Mmh. Et il se rend compte, au bout de quelques jours, qu'ils n'y arriveront pas. Ouais. Mais par contre, il se rend compte de ça, il décide, il se résigne à faire demi-tour. Mais au moment où il décide de faire demi-tour, il est l'homme le plus au nord. L'homme le plus au nord de toute l'histoire de l'humanité.
Ouais.
Ah, c'est extraordinaire parce que Johansen prend une photo de ça. On voit un petit monticule de glace, une silhouette qui est Nansen qui est là. Et voilà, c'est la photo de l'homme le plus au nord.
Ouais.
Donc il est arrivé à ça. C'est pas rien, mais c'est pas ce qu'il voulait.
C'est pas ce qu'il voulait.
Mais bon.
Il bat en retraite.
C'est le mot qu'il emploie.
Ouais.
Battre en retraite. Donc on voit bien qu'il est quand même un petit peu vexé. Ouais. Le problème, c'est qu'ils savent pas trop où ils vont. Il n'y a pas de carte.
C'est ça, parce que qu'est-ce qu'on fait? Faut bien se situer. Ils n'ont évidemment pas de radio, de façon de communiquer. Plus voilà. Personne ne sait où ils sont.
Et il n'y a pas de carte, parce que personne n'est jamais allé là. Donc du coup, ils vont vers le sud, en espérant tomber sur l'archipel François-Joseph, un archipel découvert par les Austro-Hongrois à la fin du 19e, dont les cartes sont assez approximatives.
Ouais. Mais comment ça se passe entre les deux hommes? Parce que c'est vraiment un huis clos.
À un moment donné, ils se sont engueulés.
Ouais.
C'est-à-dire que il y a Nansen qui a dit à Johansen de faire quelque chose. Johansen se rebiffe en disant c'est bon, je suis pas un débutant. Alors il s'engueule un peu comme ça, il se couche fâché.
Oui, mais quand même dans le même sac de couchage.
Dans le même sac de couchage. Parce qu'il y en a qu'un. Ouais. Et bien après, au matin ça va mieux.
Ouais.
Nansen dit ouais, non mais c'est vrai, je suis allé trop loin. Il faut que j'arrête d'être autoritaire comme ça. Mmh. Enfin bon, voilà.
Et sur leur chemin aussi, ils sont quand même à la frontière de l'humanité. C'est-à-dire que pour survivre, ils doivent tuer. Ils se nourrissent de sang. Ils tuent des ours, des oursons.
Ah, c'est vrai que c'est assez monstrueux. Alors ce qu'ils vont faire, ils vont revenir et surtout ils vont installer une cabane complètement folle qu'ils vont fabriquer sur une île pour passer l'hiver avec des pierres.
Ça, c'est quand ils trouvent la terre ferme.
Voilà,
c'est quand ils ont trouvé la terre ferme.
Et là, ils vont se faire des provisions. Et là, en effet, ils vont zigouiller des ours, des oursons, des phoques et des morses, etc. Ils vont en faire un gros tas au congèle, quoi, mais à côté de la cabane.
Ouais.
Et pendant les 8 mois où ils vont rester dans cette cabane, 8 mois à deux, dans une cabane de 2 mètres sur 3. Sans fenêtre, bien évidemment.
Ouais. Avec une température. Alors vous dites.
Moins 40 dehors, mais zéro à l'intérieur.
C'est ça. C'est le réfrigérateur dans le congélateur.
Dans le congélateur. Et ils sont là. Et bon, ils attendent que ça passe.
Ouais. Alors ça, c'est ça. C'est les semaines, les mois passent, le temps s'étire, ils sont seuls, loin de tout.
Il fait nuit.
C'est la nuit polaire. Personne ne sait où ils sont. Beaucoup doivent penser qu'ils sont morts. C'est vraiment une expérience de la solitude et de l'isolement extrême qu'ils font et de l'ennui aussi. Extrait du journal de Nansen.
Une singulière existence que la nôtre. Dans ce trou de troglodyte et dans l'inaction la plus complète. Si seulement nous avions un livre. Les tables de navigation et l'almanach sont les seuls livres que nous ayons à notre disposition. L'almanach, tant de fois je l'ai lu et relu, que je sais par cœur toute la généalogie de la famille royale, toutes les instructions pour soigner les noyés et tout le memento du pêcheur. Quoi qu'il en soit, la vue de ces caractères imprimés est pour nous un réconfort. C'est le faible lien qui nous rattache encore à la civilisation. Depuis longtemps, tous les sujets de conversation sont épuisés. Force nous est donc d'en inventer de nouveaux. Un de nos plus grands plaisirs est de nous représenter la vie que nous mènerons l'an prochain à la maison, au milieu de toutes les bonnes choses dont nous avons désappris l'usage.
Ils voulaient aller au pôle Nord, ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes, ces deux hommes, Alexis Génie.
Alors, c'est quelque chose qui est fascinant, ce moment qui dure plusieurs mois. C'est comme s'il avait touché un peu le fond de l'humanité, le fond extrême de l'humanité. Et je fais une hypothèse de romancier, c'est-à-dire que lui qui a toujours réussi tout ce qu'il faisait, ben là il est au bord de l'anéantissement, il est au bord de l'échec radical. Et je me dis que ça a dû modifier sa vision des choses. C'est-à-dire qu'il en est ressorti sûrement plus humain qu'il n'y est rentré. Voilà. Et ce qui est, peut-être explique aussi la suite de sa vie, donc sa vie d'humanitaire.
Ouais, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais déjà, comment ils se sortent de ce mauvais pas-là? Ils sont dans leur cabane, tous les deux, seuls au monde.
Eh bien, le jour revient. Ben, ils remontent dans les kayaks qu'ils avaient apportés. Ils repartent vers le sud encore, etc. Bon, ils manquent de se faire renverser par un morse. Ça se passe vraiment pas bien. Ils abordent sur une île, et puis là. Nansen entend un aboiement de chien. Il dit à Nansen, mais t'as pas entendu, il y a un chien. Comment ça, un chien? Il n'y a pas de chien ici. Bon. Si, il y en a encore. Il va voir, il y a un vrai chien, puis il voit une silhouette humaine. Et il tombe sur une expédition anglaise qui était sur la même île. Le coup de bol fabuleux.
Ça paraît complètement fou que ces deux épingles se retrouvent sur cette meule de foin arctique.
C'est un peu comme Stanley Livingstone. Hein, ouais, c'est le docteur Livingstone, je présume. C'est le miracle des explorateurs du 19e. Ils finissent toujours par se retrouver.
Oui, c'est ça. Et quand il revient, Nansen n'est pas allé jusqu'au pôle Nord, mais au moins pour un temps, il est l'homme qui a été le plus au nord que jamais personne n'était allé.
Et ça, c'est bon, il est accueilli, toute la population de Christiania dans la rue, le roi le reçoit, tout ça. Le bateau revient aussi, donc personne n'a disparu, personne n'est mort dans cette
affaire. Ceux qui étaient restés sur le bateau, ont fini leur dérive sans passer par le pôle Nord.
Voilà, sans passer par le pôle Nord. Et il écrit un livre qui traduit en français par « Vers le pôle ». Où il lisse un peu les choses, hein, parce que bon, pour que ça soit quand même pas trop glauque. Et ce livre est traduit en plusieurs langues, traduit dans toute l'Europe, lu dans toute l'Europe. Il va faire des tournées de conférences et devient le héros polaire européen et le héros national norvégien.
Alors, cet exploit lui vaudra les honneurs, mais c'est pour une action tout autre qu'il va recevoir plus tard, le prix Nobel de la paix. Vous allez nous raconter, Alexis Génie, comment d'explorateur polaire, on devient prix Nobel de la paix dans un instant. Friend, when you needed a friend. Heart hanging gold, torn again. Step ladder got down again. Found a friend. Shove, shovel the bones away. Love, human remains remain. Realizing it, progress made. Claw sanity back again. C'était More Change sur France Inter. Merci à Djoubaka qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac.
Pour moi, un homme est grand, pas seulement par ce qu'il a fait, mais aussi par la façon dont il l'a fait. pour moi, il y a deux très grands noms en ce qui concerne l'exploration polaire. Pour l'Arctique, c'est Nansen, parce qu'après avoir fait des choses exceptionnelles, il a créé, vous le savez, devant quelles difficultés, le passeport Nansen, grâce auquel des millions d'hommes ne sont pas morts de désespoir, et Shackleton. Donc pour le nord, Nansen, pour le sud, Shackleton.
La voix du célèbre explorateur polaire Paul-Émile Victor, le plus grand explorateur de l'Arctique. Pour lui, ça ne faisait aucun doute, c'était Fridtjof Nansen. D'ailleurs, c'est les deux noms qu'il cite, Shackleton pour le sud et Nansen pour le nord, ce sont deux explorateurs qui n'ont pas mené à bien leur
projet. Qui ont échoué.
Qui ont raté, mais qui ont fait quelque chose d'encore plus grand et plus fort.
Mais qui ont bien échoué.
Voilà, qui ont échoué avec de la superbe, Alexis Génie. Il a inspiré des générations d'explorateurs, Fridtjof Nansen. Oui. Tous se réclamaient de lui.
Parce que quand il est rentré, il a renoncé en fait au pôle, de toute façon, à la quarantaine. Bon, il était quand même bien occupé, parce que alors, au passage, en tant que héros national norvégien, il a aidé à l'indépendance de la Norvège et il est devenu diplomate. Donc c'était une autre vie. Mais quand même, tous les explorateurs polaires venaient lui rendre visite. Mmh. Parce que c'était le vieux sage. Puis bon, il jouait un peu le vieux sage, il aimait bien ça. On venait le voir, il donnait son avis un peu héroïque. Ouais. Donc il était connu par tous les autres, se réclamaient de lui.
Ouais. Qui sera le premier à atteindre le pôle Nord, finalement?
Alors, c'est censé être Peary, mais...
Ouais, il y a plusieurs noms, on ne sait pas exactement qui est le premier, finalement.
C'est pas très clair, ouais. Parce que Peary, il avait un second qui s'appelait Hansen, mais qui était noir. Mmh. Et peut-être qu'il y a eu une première embrouille, on s'est dit que c'était peut-être Hansen qui a été au pôle et pas Peary. Mmh. Et puis après, on s'est dit qu'en fait, ni l'un ni l'autre, parce qu'ils avaient trafiqué les chiffres et les positions. Bon, c'est pas très très clair, on sait pas trop, c'est pas... Donc c'est quelque chose qui... Après, il y a eu énormément d'expéditions un peu ratées, on a essayé en ballon, on a essayé en dirigeable, on a essayé en avion.
Amundsen a survolé le pôle, Roald Amundsen survolé le pôle Nord,
mais il en est mort.
En dirigeable.
Ah non, en dirigeable, ça c'était les Italiens.
Ah oui.
C'était le Nobile, là aussi ça a été dramatique, il y a toujours une tragédie du pôle. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'expédition de Nansen, à part ce moment terrible de la cabane, c'est sans tragédie. Personne ne meurt dans les aventures de Nansen.
Alors, à la mort de Roald Amundsen, Nansen lui a rendu hommage et on a un enregistrement de cet hommage. Ça nous permet d'entendre la voix de Fridtjof Nansen. Voilà, Nansen rendant hommage à l'explorateur polaire Roald Amundsen, qui sera allé plus loin que lui, puisque lui, il a découvert le pôle sud aussi, hein, Roald Amundsen. Il sera le premier à aller au pôle sud. Et qu'est-ce qui va valoir à Nansen le prix Nobel de la paix, finalement, Alexis Génie?
Alors, c'est tout autre chose, mais c'est quand même lié. Donc, il devient diplomate, il renonce aux expéditions polaires, il vient juste conseiller. Donc, il représente la Norvège en Angleterre, arrive la guerre de 14, la Norvège est neutre, donc n'y participe pas, lui, donc il reste en Norvège pendant ce temps-là. Mais il est effondré par ce qu'il voit de cette guerre mondiale et il a l'impression que c'est le tombeau de l'humanisme européen. En quoi il a pas tort. Et il est effrayé par ça et il dit c'est le devoir des neutres que de maintenir cette civilisation européenne. Et juste après la guerre, il va à la conférence de Paris, là où on discute, les alliés discutent pour recréer un monde nouveau d'après-guerre, et il offre ses services pour faire quelque chose pour la paix, pour la reconstruction de l'Europe. Et là, eh bien, on va lui refiler les dossiers impossibles. Les dossiers dont personne ne veut, aussi parce que lui, il est très connu et il est neutre. Donc ça aide bien. Premier dossier, rapatrier les prisonniers allemands qui sont en Russie. Donc là, il va aller voir les soviétiques, il va organiser des trains, des bateaux, etc. Il va ramener 250 000 prisonniers allemands que les Russes avaient libérés, mais qui, dans le chaos de la révolution, ils étaient coincés là-bas. Donc il arrive, parce qu'il peut discuter avec le gouvernement soviétique et tous les gouvernements alliés. Et après, eh bien, on va lui confier le dossier des apatrides. Mmh. Puisque les grands empires d'Europe se sont effondrés, empire ottoman, empire austro-hongrois, empire allemand, empire russe, et il y a une reconstruction de nations sur les ruines de ces empires. Et le problème, c'est que dans ces reconstructions, il y en a pas mal qui passent à l'as. Par exemple, mmh. Les Russes blancs, ils sont déchus de leur nationalité par Lénine, mais ça fait quand même 2 millions de personnes. Mmh. Les Arméniens ne reprennent pas la nationalité turque.
Et il va créer un passeport pour que tous ces gens aient le droit d'exister, tout simplement.
Que ces gens aient le droit de passer les frontières, parce qu'en tant qu'apatrides, ils avaient des passeports périmés, d'une certaine façon, et ils ne pouvaient pas passer les frontières. Et donc, ils étaient coincés dans des camps, dans des camps qui étaient dans toute l'Europe, et personne n'en voulait. Il a réussi à créer ce passeport sous couvert de la SDN, la Société des Nations, accepté par tous les pays d'Europe, et ces gens-là, donc ont été émis quelque chose comme 450 000 passeports, tous ces gens-là ont pu franchir les frontières et aller en Europe, aller en Amérique. Ouais.
C'est ce qui lui a valu ce prix Nobel de la paix à Fridtjof Nansen. Il meurt en 1930 à l'âge de 69 ans. Il aura été là où presque personne n'était allé avant lui. Il aura sauvé des milliers de vies, mais selon vous, Alexis Gény, il n'était pas sûr d'avoir réussi la sienne.
Bah, il a écrit clairement, mais pourquoi on m'a donné le prix Nobel pour quelque chose que j'ai fait par hasard? En fait, il aurait voulu être scientifique. Mais deux jours après sa thèse, il s'en va au Groenland, donc ça, voilà. Mais il raconte ça. Mais c'est pour ça que c'est un personnage de roman.
Merci, Alexis Gény. Je rappelle que vous avez publié Le passeport de Monsieur Nansen aux éditions Paulsen, une biographie qui se lit comme un roman. Un grand merci à vous, Alexis Gény. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. À demain pour de nouvelles aventures.